J'ai fait quelque chose contre la peur. Je suis resté assis toute la nuit et j'ai écrit. À présent, je suis aussi fatigué qu'après un long chemin à travers les champs d'Ulsgaard. Il m'est pourtant douloureux de penser que tout cela n'est plus, que des étrangers habitent cette vieille et longue maison de maître. Il est possible que dans la chambre blanche, en haut, sous le pignon, les bonnes dorment à présent, dorment de leur sommeil pesant, humide, du soir jusqu'au matin. Et l'on n'a rien ni personne, et l'on voyage à travers le monde avec sa malle et une caisse de livres, et en somme, sans curiosité. Quelle vie est-ce donc? Sans maison, sans objet hérité, sans chien. Si du moins l'on avait des souvenirs, mais qui en a? Si l'enfance était là, elle est comme ensevelie. Peut-être faut-il être vieux pour pouvoir tout atteindre. Je pense qu'il doit être bon d'être vieux. Aujourd'hui, nous avons eu une belle matinée d'automne. Je traversais les Tuileries. Tout ce qui était à l'est, en avant du soleil, éblouissait. La partie éclairée était recouverte d'un brouillard, comme d'un rideau gris de lumière. Grise dans la grisaille, les statues se chauffaient au soleil dans les jardins encore voilés. Quelques fleurs isolées se levaient des longs parterres et disaient rouge d'une voix effrayée. Puis un homme très grand et très svelte parut, tournant l'angle du côté des Champs-Élysées. Il portait une béquille, non pas glissée sous l'épaule, il la portait devant lui, légèrement, et de temps à autre la posait à terre, avec force et avec bruit, comme un caducée. Il ne pouvait réprimer un sourire joyeux et souriait par-delà tout, au soleil, aux arbres. Son pas était timide comme celui d'un enfant, mais d'une légèreté inaccoutumée, plein du souvenir d'une autre démarche. Ah, l'effet d'une petite lune, jour où tout est clair autour de nous, à peine esquissé dans l'air lumineux et cependant distinct. Les objets les plus proches ont des tonalités lointaines, sont reculés, montrés seulement de loin, non pas livrés. Et tout ce qui est en rapport avec l'étendue, le fleuve, les ponts, les longues rues et les places qui se dépensent, a pris cette étendue derrière soi et est peint sur elle comme sur un tissu soyeux. Il n'est pas possible de dire ce que peut être alors une voiture d'un vert lumineux sur le pont Neuf, ou ce rouge si vif qu'on ne pourrait pas l'étouffer, ou même simplement cette affiche sur le mur mitoyen d'un groupe de maisons gris-perle. Tout est simplifié, ramené à quelques plans justes et clairs, comme le visage dans les portraits de Manet. Rien n'est insignifiant ou inutile. Les bouquinistes du quai ouvrent leurs boîtes, et le jaune frais ou fatigué des livres, le brun violet des reliures, le vert plus étendu d'un album, tout concorde, compte, tout prend part et concourt à une parfaite plénitude. J'ai vu dans la rue l'assemblage suivant. Une petite charrette à bras, poussée par une femme. Sur le devant est posé en longueur un orgue de Barbarie. En travers, sur l'arrière, un panier où un tout petit enfant, solidement planté sur ses jambes, a l'air tout joyeux sous son bonnet et ne veut pas se laisser asseoir. De temps en temps, la femme tourne la manivelle. Le petit se lève aussitôt en piétinant dans son panier, et une petite fille dans sa robe verte des dimanches danse et bat du tambourin en les levant vers les fenêtres. Je crois que je devrais commencer à travailler un peu, à présent que j'apprends à voir. J'ai 28 ans, et il n'est pour ainsi dire rien arrivé. Reprenons. J'ai écrit une étude sur Carpaccio qui est mauvaise. Un drame intitulé Mariage qui veut démontrer une thèse fausse par des moyens équivoques et des vers. Oui, mais des vers signifient si peu de choses quand on les a écrits jeunes. On devrait attendre et butiner toute une vie durant, si possible une longue vie durant. Et puis enfin, très tard, peut-être saurait-on écrire les 10 lignes qui seraient bonnes. Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des sentiments. On les a toujours assez tôt. Ce sont des expériences. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas, c'était une joie faite pour un autre, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement, partant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour, dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mal d'enfant, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore ceux-là. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang, regards, gestes, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. Mais tous mes vers sont nés autrement, donc ce ne sont pas des vers. Et combien je me trompais lorsque j'écrivais mon drame, étais-je un imitateur ou un fou d'avoir eu besoin d'un tiers pour raconter le sort de 2 hommes qui se rendaient la vie dure? Avec quelle facilité je suis tombée dans le piège. Et j'aurais cependant dû savoir que ce tiers qui traverse toutes les vies et les littératures, ce fantôme d'un tiers qui n'a jamais existé, n'a pas de sens et qu'on doit le nier. Il est un des prétextes de la nature qui s'efforce toujours de détourner l'attention des hommes de ses mystères les plus profonds. Il est le paravent derrière lequel se déroule un drame. Il est le vain bruit à l'entrée du silence d'un vrai conflit. On dirait en vérité que tous, jusqu'ici, ont jugé trop difficile de parler de ces 2 dont seulement il s'agit. Le tiers, qui précisément parce qu'il est si peu réel, reste la partie facile du problème, tous ont su le camper. Dès le commencement de leur drame, on sent l'impatience d'en arriver à lui. À peine peuvent-ils l'attendre. Dès qu'il est là, tout va bien. Mais quel ennui lorsqu'il se met en retard. Rien ne peut arriver sans lui. Tout s'arrête, se ralentit, attend. Oui, mais qu'arriverait-il si l'on voulait prolonger cette pause? Voyons donc, monsieur le dramaturge, et toi, public qui connais la vie, qu'arriverait-il s'ils étaient portés disparus, ce viveur populaire ou ce jeune homme prétentieux qui ouvre tous les mariages comme un passe-partout? Qu'arriverait-il si, par exemple, le diable l'avait emporté? Supposons-le un instant. On s'aperçoit tout à coup que les théâtres se vident d'étranges façons. On les mure comme des trous dangereux, Les mythes seuls titubent dans un vide que plus rien n'étaye. Les dramaturges ne jouissent plus de leur quartier entier de ville. Toutes les agences d'affaires et de police cherchent pour eux, dans les parties les plus reculées du monde, le tiers irremplaçable qui était l'action même. Et cependant, ils vivent parmi les hommes. Je ne veux pas parler de ces tiers, mais les deux autres sur qui tant de choses seraient à dire, sur qui l'on n'a encore rien dit, bien qu'ils souffrent et agissent et ne sachent comment céder. C'est ridicule. Je suis assis dans ma petite chambre, moi, Bridge, âgée de 28 ans et qui ne suis connue de personne. Je suis assis ici et ne suis rien. Et cependant, ce néant se met à penser, et à son cinquième étage, par cette grise après-midi parisienne, pense ceci. Est-il possible, pense-t-il, qu'on n'ait encore rien vu, reconnu et dit de vivant? Est-il possible qu'on ait eu des millénaires pour observer, réfléchir et écrire, et qu'on ait laissé passer ces millénaires comme une récréation pendant laquelle on mange sa tartine et une pomme? Oui, c'est possible. Est-il possible que malgré invention et progrès, malgré la culture, la religion et la connaissance de l'univers, l'on soit resté à la surface de la vie? Est-il possible que l'on ait même recouvert cette surface, qui après tout eût encore été quelque chose, qu'on l'ait recouverte d'une étoffe indiciblement ennuyeuse, qui l'a fait ressembler à des meubles de salon pendant les vacances d'été? Oui, c'est possible. Est-il possible que toute l'histoire de l'univers ait été mal comprise? Est-il possible que l'image du passé soit fausse, parce qu'on a toujours parlé de ces foules comme si l'on ne racontait jamais que des réunions d'hommes, au lieu de parler de celui autour de qui ils s'assemblaient, parce qu'il était étranger et mourant? Oui, c'est possible. Est-il possible que nous croyions devoir rattraper ce qui est arrivé avant que nous soyons nés? Est-il possible qu'il faille rappeler à tous, l'un après l'autre, qu'ils sont nés des anciens, qu'ils contiennent par conséquent ce passé, et qu'ils n'ont rien à apprendre d'autres hommes qui prétendent posséder une connaissance meilleure ou différente? Oui, c'est possible. Est-il possible que tous ces gens connaissent parfaitement un passé qui n'a jamais existé? Est-il possible que toutes les réalités ne soient rien pour eux, que leur vie se déroule et ne soit attachée à rien, comme une montre oubliée dans une chambre vide? Oui, c'est possible. Est-il possible que l'on ne sache rien de toutes les jeunes filles qui vivent, cependant? Est-il possible que l'on dise les femmes, les enfants, les garçons, et qu'on ne se doute pas que malgré toute sa culture, l'on ne se doute pas que ces mots, depuis longtemps, n'ont plus de pluriel, mais n'ont qu'infiniment de singulier. Oui, c'est possible. Est-il possible qu'il y ait des gens qui disent Dieu et pensent que ce soit là un être qui leur est commun? Vois ces deux écoliers, l'un s'achète un couteau de poche, et son voisin, le même jour, s'en achète un identique. Et après une semaine, ils se montrent leurs couteaux, et il apparaît qu'il n'y a plus entre les deux qu'une lointaine ressemblance, tant a été différent le sort des deux couteaux dans les mains différentes. Oui, dit la mère de l'un, s'il faut que vous usiez toujours tout. Et encore, est-il possible qu'on croie pouvoir posséder un Dieu sans l'user? Oui, c'est possible. Mais si tout cela est possible, si tout cela n'a même qu'un semblant de possibilité, mais alors il faudrait, pour l'amour de tout au monde, il faudrait que quelque chose arrivât. Le premier venu, celui qui a eu cette pensée inquiétante, doit commencer à faire quelque chose de ce qui a été négligé. Si quelconque soit-il, si peu désigné, puisqu'il n'y en a pas d'autre. ce bridge, cet étranger, ce jeune homme insignifiant devra s'asseoir et à son cinquième étage devra écrire, écrire jour et nuit. Oui, il devra écrire. C'est ainsi que cela finira.